Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et lorsqu'il est question de pays, de territoire, il est souvent question de géographie, souvent question de géographie aussi dans les drames que traverse notre pays. Par exemple, ces inondations aujourd'hui dans le département de l'Aude. C'est la raison pour laquelle nous vous avons demandé, Béatrice Gibelin, de venir. Vous êtes géographe et vous dirigez une revue, la revue Hérodote, qui est probablement la revue de géographie la plus connue en France. Une revue qui s'est illustrée notamment en étudiant des risques, ces risques, soit des risques géopolitiques, des risques naturels, des risques géographiques. Aujourd'hui, on a sous les yeux un risque naturel, celui des inondations. Est-il naturel? D'ailleurs, je vais vous poser la question, Béatrice Gibelin, pour tenter de comprendre un peu ce qui arrive, le caractère exceptionnel de cet épisode, avec là aussi les connaissances dont vous disposez en matière de géographie.
Oui, bien sûr, c'est un risque naturel dont les conséquences sont humaines et sans doute aussi à terme peut-être politiques. C'est effectivement un phénomène exceptionnel, même si dans cette région, il est assez classique qu'à cette période de l'année, on ait des épisodes de crues. Mais celui-ci, il est, on va dire, de l'ordre du siècle. Il correspond à peu près, même pas encore tout à fait, elle était encore plus importante que ça en 1891. On a presque atteint les 7,95 m en 1895, on est encore à 7,65 m ici. Bon, mais enfin, on est dans des crues tout à fait exceptionnelles. Alors, la question qui se pose, et ça a été dit plus ou moins dans les nouvelles, on aurait dû savoir, on aurait dû prévoir. C'est toujours un peu ce qui se dit. Alors, il y a plusieurs choses à dire à ce niveau-là. Un orage, c'est difficile de dire très précisément où il va tomber. On le sait bien, on nous annonce des orages, le voisin à 200 mètres, il va pas avoir une goutte de pluie et nous on va en avoir. Et par ailleurs, ce qui a été particulier dans ce processus-là, c'est que cet orage s'est, si vous voulez, réalimenté constamment sur le même endroit. Et ça, c'est des configurations tout à fait spécifiques et que Météo France ne peut pas prévoir. C'est là où, ni très très précisément le lieu où ça va tomber, ni si ça va passer, et on pensait que la dépression filerait plus vite sur l'Est, or elle a stagné à cet endroit-là. Donc on a des configurations topographiques, des configurations climatologiques, des configurations météorologiques qui expliquent cette particularité aujourd'hui.
Oui, parce qu'il y a quand même une zone assez étendue dans l'Aude qui a été touchée. Je l'ai rappelé tout à l'heure en matière de bilan, et il y a eu malheureusement des morts à Villalier, à Villardonnel, à Villegaïen, autrement dit au nord et au sud du département, ce qui montre que la zone touchée, elle n'était pas si localisée que cela, Béatrice Gibelin.
Oui, vous avez raison, mais une grande partie des villages que vous citez sont sur la rive gauche de l'Aude et sont en fait sur le versant de la montagne noire. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une zone dans laquelle les reliefs sont très présents. La montagne noire au nord, les corbières au sud-est et les contreforts des Pyrénées au sud-ouest. C'est quand même une zone, si vous voulez, qui permet à une circulation atmosphérique butant sur les reliefs de s'élever. Or, c'est un air très chaud, très humide. Il fait anormalement chaud en ce moment, on le sait très bien. Et donc, la Méditerranée est encore chaude. Donc elle est capable de dégager beaucoup de vapeur d'eau. Et quand elle rencontre un relief, ça s'élève, ça se condense et ça pleut. Tout le monde peut parfaitement comprendre ça. Et c'est d'autant plus fort qu'on a ce mouvement d'air chaud et humide qui arrive de l'Est et que de l'Ouest, on va avoir un air plus froid et plus sec. Donc ça fait une ligne de convergence qui alimente aussi les orages possibles. Donc, c'est vraiment à cette période de l'année un moment très particulier. On avait eu aussi la queue d'un ouragan Leslie, qui n'est pas à l'origine directe de ce qui s'est passé là, mais qui, d'une certaine façon, a dû perturber la dépression et sans doute un peu compliquer les affaires. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce genre, j'allais dire, d'événements météorologiques on en voit sous forme de tornades, dans des endroits où on n'avait jamais eu de tornades, et on en voit beaucoup plus facilement.
Donc, oui, alors c'est ce à quoi on a assisté aussi cet été en France, et en énumérant les différents épisodes de catastrophes naturelles que notre pays a rencontrés, eh bien on réalise, Béatrice Gibelin, que ces catastrophes sont de plus en plus fréquentes, ce qui pose déjà... En premier lieu, la question du climat, qu'est-ce que vous en pensez en tant que géographe ?
Incontestablement, on est dans un moment de dérèglement climatique. Je ne parlerai pas forcément de changement climatique, mais c'est des questions de prise en compte du temps. Sur des temps longs, on va au changement climatique, c'est incontestable. C'est maintenant bien prouvé, bien connu, bien... Bon, donc, c'est net. Maintenant, quels effets de ce changement climatique à notre échelle de temps ? Ça, c'est autre chose. On peut voir des effets de ce changement climatique, mais regardez comme les météorologues sont toujours très prudents avant de dire attention, ce phénomène-là, oui, il peut s'expliquer. Non, il n'est pas forcément révélateur d'un changement climatique inexorable. Ils sont d'une extrême prudence. Mais ce qu'on constate, c'est effectivement combien les tornades sont plus fréquentes, combien quand on a un épisode d'inondation, il va avoir des conséquences importantes. Ça joue aussi sur le fait que on a une occupation de l'espace, une occupation des sols qui est très différente de ce qu'elle était quand je parlais de la crue de 1891. C'était pas du tout la même configuration que ce qu'on connaît aujourd'hui dans la vallée de l'Aude.
Alors on va en parler justement des conséquences possibles de l'urbanisation et des changements de mode d'agriculture qui pourrait être responsable de ça, Béatrice Gibelin. Mais avant ça, les géographes, dont vous êtes, nous apprenaient que la France était un climat tempéré. On a l'impression que ce climat l'est de moins en moins tempéré. On avait l'habitude de voir, par exemple, aux États-Unis des tornades. Et on voit cela aujourd'hui en France. Est-ce que la notion de climat tempéré, de climat doux, est une notion qu'il va falloir relativiser à l'avenir pour la France ?
Je pense qu'on peut encore parler de climat tempéré pour la France. On n'est pas encore confronté.
Il faisait 28 degrés à Lan et ce week-end.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, mais on a déjà connu peut-être des épisodes de cet ordre. À terme, à long terme, je crois qu'il faut quand même avoir bien cette idée des temps. Assurément, on va vers un changement climatique important. Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que la France n'est plus dans un climat tempéré ? Je pense que ce serait une erreur. En revanche, je crois qu'il y a une culture que nous n'avons pas, qui est la culture de la prévention. Mais on ne l'a pas dans aucun domaine, ou presque, si vous voulez, y compris sur le plan de la santé, par exemple. On n'a pas une culture de la prévention de la santé en France. Je pense qu'il va falloir véritablement qu'il y ait toute une éducation au risque et à la gestion du risque. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Le principe de protection avant tout qui gèlerait tout, ce n'est pas ça. C'est qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce type d'événement et s'adapter.
Mais regardez justement, c'est cela. On a des régions du monde où les habitants non seulement sont avertis du risque d'inondation, mais orientent leur existence matérielle en fonction de ces inondations. C'est le cas par exemple en Asie, les maisons sont construites pour cela. Évidemment, les maisons de Trèbes ne le sont pas prévues pour cela. Est-ce que vous envisagez, vous, géographe, qu'il va falloir modifier nos habitats en fonction de ces risques nouveaux ?
C'est une question importante. Je rappellerai que dans le Midi, on habitait à l'étage, on n'installait pas la maison au rez-de-chaussée. Hein, les pièces à vivre, elles étaient toujours à l'étage. En dessous, c'était pour ranger un certain nombre d'affaires ou autres. C'était peut-être pas tout à fait par hasard, hein, si on fonctionnait de cette façon-là. On l'a un petit peu oublié, parce qu'on a endigué, on a... Et puis, il y a dans le mode de vie un attrait pour être au plus près de l'eau. Hein. De plus en plus, on aménage les berges, les balades en bord de l'eau, le rapport à l'eau a pris... On parle même de l'eau dans la ville. Hein. Donc, on a pris un autre... Les voies sur berge à Paris, par exemple. Donc, on a un autre rapport. Si vous voulez, cette méfiance qu'on avait, on l'a moins. Mais il faut reconnaître aussi que dans ces inondations, on a vu des maisons très anciennes touchées. On n'a pas vu que du lotissement récent. On a vu des maisons très anciennes touché, donc auquel c'est arrivé plusieurs fois sans doute d'être inondé, mais On le savait, on en prenait le risque. Là, quand on écoute bien les gens qui sont, pour certains, ont tout perdu et donc ont ce désespoir tellement légitime. Mmh. Mais beaucoup disent, on a mis les choses en haut, on savait que ça arrivait, mais là, vraiment, ça a été très important. C'est pas comme s'ils n'avaient pas du tout dans la mémoire le souvenir de ce genre de choses. Et je pense qu'on va aller, sans doute, vers une amélioration dans la conception de l'urbanisme. Vous voyez, la France n'était quand même pas très douée pour l'urbanisme par rapport à d'autres pays.
Mais oui, parce qu'alors aujourd'hui, on accuse l'urbanisme. Alors notamment, on dit que les constructions, le fait que le foncier avance, qu'il y a de moins en moins de terres agricoles, cela empêche les eaux de ruisseler. Est-ce que ça, c'est une explication maintenant qu'on a parlé de ces causes climatiques? Est-ce qu'il y a des causes urbaines ou d'urbanisation, Béatrice Gibbe?
Sans doute qu'à certains endroits, le ruissellement s'est fait de façon brutale parce que les sols avaient été artificialisés, comme on dit. Bon, mais dans ce phénomène qui s'est passé là, c'est très secondaire, si vous voulez. Je crois que l'importance du phénomène fait qu'on n'aurait pas amélioré grand-chose. Mais c'est indéniable qu'il va falloir qu'on réfléchisse à quels matériaux on utilise. Il y a effectivement des revêtements qui absorbent mieux que d'autres. Bon, ça va avoir un coût, tout ça. Il va falloir penser à des aménagements urbains qui puissent mieux, amortir le choc de ces très grandes périodes d'inondation. Ça va rentrer, je crois, dans les mœurs. Il y a une architecture à penser où on va revenir peut-être à des choses plus raisonnables.
Par exemple, qu'est-ce qui vous paraît déraisonnable dans ce qui a été fait ?
Déraisonnable, c'est par exemple la construction de maisons généralement à la sortie de ville, c'est-à-dire sur des terrains agricoles qui ont été viabilisés, qui répondent à une demande. Hein, les gens demandent à avoir une maison. Et les maires, qui ont quand même le permis de qui accordent les permis de construire seulement depuis les années 80. Avant, c'était les préfets qui contrôlaient les permis de construire. Il leur est difficile, si vous voulez, de parfois résister à cette demande. D'autant plus qu'une commune qui ne construit plus du tout, quand même une commune qui va avoir tendance à vieillir parce qu'elle ne va pas accueillir des familles avec des jeunes enfants. Qu'est-ce qui va se passer pour l'école? C'est normal qu'un maire essaye de dynamiser la démographie de sa ville. Bon, et puis, c'est avoir des rentrées, des revenus. Bon, il ne va plus avoir de taxes d'habitation pour certains, mais c'est utile pour un maire. Donc, je ne jette la pierre à personne. Hein, j'essaie juste de regarder. Mais l'idée d'avoir de nouveau un habitat dense, mais qui puisse être pensé pour que chacun y trouve son bonheur, plutôt que étendre, comme on l'a étendu, les lotissements dans la campagne, ce qui nécessite une ou deux voitures, ce qui nous repose à ce moment-là la question, effectivement, du réchauffement climatique et du CO2. Je pense que c'est des choses qui vont maintenant être présentes, si vous voulez, dans l'imaginaire, et pas seulement dans la tête, mais dans l'imaginaire d'un certain nombre de nos concitoyens. Et je pense qu'on va avoir effectivement des adaptations qui demanderont du temps, mais qui devront se faire.
Le Midi a été particulièrement touché, on l'a vu, il y avait le Var, maintenant donc c'est l'Aude. Il y a aussi les incendies de forêt qui, généralement, malheureusement, rythment l'été. Là aussi, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que la mémoire nous joue des tours, Béatrice Gibbe?
Les incendies sont pas du tout quelque chose de nouveau. Ils ont même été plutôt cette année mieux contrôlés. Mais le climat méditerranéen est un climat violent. On voit le climat méditerranéen comme les vacances, c'est l'été, il y fait toujours beau, le ciel est bleu. Mais non, c'est un climat tout à fait violent avec des phénomènes climatiques importants dont vous avez cité les inondations, on peut bien évidemment les incendies de forêt. Les incendies de forêt, ça tient aussi là une responsabilité humaine. C'est-à-dire que quand c'est des forêts domaniales, généralement il n'y a pas trop d'incendies parce qu'elles sont très bien entretenues avec des coupe-feu et qui fait que le feu ne va pas s'étendre et elles sont très bien surveillées. Ce qui va faire l'incendie de forêt, c'est la forêt mal entretenue avec de la broussailles, avec un morceau de verre qui va avoir le soleil et puis qui va s'enflammer, ou avec un mégot jeté, c'est là qu'on va avoir le grand problème. Quand vous parlez des grands incendies, On peut penser à la Californie, on peut penser au Portugal. Là, on a eu effectivement de très très grands incendies. Mais là aussi, il y a une responsabilité humaine dans les très graves incendies. C'est-à-dire qu'on est allé construire parce que le terrain était moins cher, parce qu'on était évidemment plus loin de la grosse agglomération et que on n'a pas pris les mesures qu'on aurait dû prendre dans cette situation-là. Donc l'homme a aussi sa responsabilité dans ces catastrophes.
Béatrice Gibelin, vous qui êtes géographe, dans Hérodote, il y a une attention portée au risque naturel. Alors on voit les inondations aujourd'hui, on vient de parler des incendies. Est-ce qu'il y a d'autres risques en France? Je songe par exemple au risque sismique qui est souvent évoqué par les géographes. Vous dites qu'on n'a pas la culture de la prévention. Est-ce que là, par exemple, c'est un risque qui est convenablement pris en compte en France aujourd'hui? Est-ce que on devrait se pencher dessus un peu plus?
Mais ce qui est sûr, c'est que les constructions qui se font sur le littoral méditerranéen, c'est-à-dire du côté de la Côte d'Azur, puisqu'on sait très bien qu'on est sur une zone sismique, elles ont des normes de construction pour devoir résister aux tremblements de terre. On a la montagne, les Alpes qui sont juste à l'arrière-plan de la côte méditerranéenne. Alors, les lois sont là, les contrôles aussi. Est-ce que tout ce qui s'est construit sur le littoral méditerranéen, du sud-est méditerranéen, répond parfaitement à toutes les normes? Je n'en sais rien, je l'espère. Parce que le jour où il y aura effectivement un tremblement de terre, il vaudra mieux que ça ait été construit sérieusement.
Cela, c'est pour, en quelque sorte, l'analyse des risques naturels. Des risques naturels, on peut passer aux risques politiques, ou en tout cas à la perception de la manière dont ces risques naturels sont ou non pris en compte par les pouvoirs publics, parce que l'une des causes de la montée des populismes, et c'est là votre travail, Béatrice Gibelin, c'est le fait d'avoir des populations qui se sentent abandonnées par l'État, abandonnées face à un certain nombre de situations qui, toutes évidemment, ne sont pas liées à des risques naturels. Et on l'entend déjà dans l'Aude, les populations ont été abandonnées, elles n'ont pas été prévenues à temps. Que pensez-vous de ce verbe ?
Moi, ça me préoccupe un peu, ce discours sur l'abandon. On l'entend de plus en plus. On est abandonné. Et si on regarde vraiment la situation française, je ne pense pas que l'État abandonne les citoyens. On est dans des situations, c'est vrai, parfois, où la fermeture, par exemple, d'une poste, ça a des effets, y compris électoraux, importants. L'IFOP a démontré que la fermeture d'une poste favorisait le vote du Front National. Bon, je ne fais pas de corrélation simple et rapide, mais la poste étant emblématique du service public partout sur le territoire. Mais ce qui pose des problèmes, c'est que la répartition de la population française n'est plus du tout celle des années 50. On a peut-être gagné 20 millions ou 25 millions d'habitants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais elle s'est répartie très différemment. Donc on a des zones qui sont très très faiblement peuplées en France. Des zones à 10 habitants au kilomètre carré. Il est très difficile de maintenir un service public sur des zones où vous avez plus personne pour aller les utiliser, si ce n'est quelques personnes âgées et encore. On peut pas maintenir un bureau de poste s'il n'y a pas de gens pour venir, sur leur recommander, chercher leur sous. C'est impossible. Donc il y a une rationalité qui est à faire. Et je veux dire, ça, à la limite, on le comprend, mais au moment où ça se passe, ou la fermeture d'une école parce qu'il n'y a plus assez d'élèves, c'est là qu'on a le discours, on est abandonné. La diminution des services publics de l'État, qui a été une des grandes caractéristiques d'une France, parce que cette France-là est restée rurale très longtemps. L'exode rural en France, il est dans les années 50. Donc dans les années 50, c'est pas si loin, on peut se souvenir comment c'était dans les années 50. Dans mon village, il y avait la vie, etc. Les choses ont considérablement changé. Donc je crois qu'il faut prendre vraiment conscience de ce que représente l'abandon, et ce discours-là est un discours qui a des conséquences politiques graves.
On va évoquer avec vous, Béatrice Gibelin, dans une vingtaine de minutes, quelles peuvent être justement les conséquences de ce sentiment d'abandon et comment expliquer que la géographie électorale, cette fois-ci de l'Europe, se transforme avec le Brexit, avec la montée des populismes et avec aussi un discours sur la France périphérique, vous nous direz. Béatrice Gibelin, ce que vous en pensez. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil.
Les matins de France Culture.
Et nous retrouvons notre invitée Béatrice Gibelin. Vous dirigez la revue Hérodote, l'une des revues les plus connues en matière de géographie en France. Une revue où l'on étudie les risques naturels, les risques politiques. Et puisque l'on vient d'évoquer la situation politique en France, on a évoqué les territoires dans une première partie et ce sentiment d'abandon, un sentiment d'abandon qui pourrait expliquer le vote populiste. Est-ce qu'il y a en France un lien entre ce sentiment d'abandon, la diminution des infrastructures, le vote Front National ou le vote de rejet qui monte? Qu'en pensez-vous, Béatrice Gibelin?
Oui, il y a sans doute une corrélation entre tout ça. C'est pas les seules raisons, évidemment, d'un vote pour le Rassemblement national. Mais le fait que les Français sont très attachés à leur service public. En fait, les Français sont très attachés à l'État. C'est pas tellement les Français qui réclament moins d'État. C'est parfois chef d'entreprise d'une économie libérale. C'est parfois des élus en région qui voudraient avoir plus de pouvoir pour gérer leurs affaires. Mais est-ce que les Français réclament moins d'État? Je pense pas. Ils réclament à payer moins d'impôts, tout au moins un certain nombre d'entre eux, mais pas vraiment moins d'État. Imaginons qu'on fasse une éducation nationale qui ne soit plus nationale, mais qui soit organisée à l'échelle des régions, comme c'est en Allemagne, par exemple. Ce serait, j'en suis sûr, un tollé à tous les coups. Imagine-t-on une police qui ne soit plus nationale? Regardez les difficultés que les polices municipales, si on doit les armer ou pas. Donc je pense que les Français sont très attachés à l'État. Dans notre histoire, l'État a fait la nation et c'est quelque chose qui reste tout à fait central, si vous voulez, important. Et le rapport à l'État est un rapport qui est différent à ce qu'il peut être dans d'autres États. Donc ça, c'est un premier point. Résultat, l'idée qu'on puisse ne fermer une école, ou fermer un hôpital de seconde catégorie, ou fermer un service de poste, c'est là on nous abandonne. On n'a plus rien. Il nous reste plus rien. Et ce sentiment-là peut se traduire parfois, associé à d'autres choses, à la volonté de retrouver une sorte de France d'autrefois, mythifiée, dans ses frontières protégées. Ce qui me semble évidemment éminemment dangereux est le discours des Frances périphériques qu'on entend beaucoup.
Le discours que l'on doit à l'un de vos confrères, Christophe Tidhuy, qui vient de publier No Society et qui explique qu'il y a un lien entre cette France périphérique qu'il faut distinguer de la France des banlieues et que l'on distingue évidemment de la France des métropoles. Et c'est cette France-là finalement qui serait aujourd'hui la plus éloignée du radar du pouvoir, celle dont on s'occuperait le moins, Béatrice Gibelin.
Moi, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Ce qui est sûr, c'est que là où les densités de population sont très faibles, on ne peut pas maintenir des services publics comme ils étaient autrefois. Ce que je disais tout à l'heure, la répartition de la démographie, la population...
Mais est-ce qu'elle a beaucoup changé,
oui,
cette répartition?
Énormément.
Elle a changé à l'échelle du territoire, elle a changé également dans les régions.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dresser justement ces principales lignes, Béatrice Gibelin?
Ce qu'on a appelé la diagonale du vide, c'est une expression qu'avait pris le géographe Roger Brunet, qui va effectivement, on va dire, du sud des Cévennes, qui passe vers l'est et qui traverse après une Champagne qui est très très vide, la Haute-Marne, et qui va aller jusqu'aux Ardennes. C'est une zone qui est effectivement très 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 vide.
Donc, on peut dire que la situation c'est même aggravé,
oui,
à cet égard.
Oui, et puis c'était des zones avec une industrialisation, des industries locales qui ont périclité. L'industrie a beaucoup périclité en France. Les services ont pris une très grande place. Mais dans ces lieux-là, par exemple, posséder une maison ne veut pas dire que vous allez vous enrichir et que vous allez la revendre plus cher. Tout le monde entend sans arrêt la montée des prix. Là, si vous arrivez à la revendre, vous aurez eu bien de la chance, peut-être. Bon. Donc le sentiment, là, qu'on n'est pas traité comme les autres. On n'est pas traité comme dans la grande ville, où là, effectivement, il va y avoir un marché immobilier. Je pensais à ces gens de l'Aude, c'est... peut-être toutes leurs économies, c'est le travail d'une vie qu'ils voient détruite dans cette maison. Il faut toujours garder en tête que le salaire médian en France, il est de 1 700 euros. C'est-à-dire qu'il y a autant de Français en dessous de 1 700 qu'il y en a au-dessus de 1 700. Et je pense que pour ces gens-là, si vous voyez qu'ils vivent ça, c'est le sentiment que la vie de leurs enfants ne sera pas meilleure. Pendant longtemps, tout au long des 30 glorieuses, d'accord, c'était dur, c'était pas facile, mais pour les enfants, ça serait mieux. Et aujourd'hui, commence à se dire, ben pour les enfants, ça ne va pas être mieux. Et peut-être même que ça va être pire.
Bon, mais alors, justement, c'est un peu ce que dit Christophe Guillouis. Il dit qu'on a affaire à des zones qui, encore une fois, ne sont pas les zones de banlieue qui concentreraient les regards médiatiques, politiques, qui sont très éloignées du regard et du regard commun. Alors, vous citiez les Ardennes, on pourrait citer la Thiérache. Enfin bref, toute cette diagonale, effectivement, du vide, on voit que ce sont des régions où l'industrie a cessé d'exister, où l'agriculture peine à remplir l'espace social, puisque c'est une agriculture de plus en plus mécanisée, des grandes exploitations, bref, il y a peu d'emplois là-dedans,
oui,
Béatrice.
Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont été abandonnés. C'est comme s'il y avait eu la volonté de la part de l'État de se désintéresser de ces lieux-là. C'est pas comme ça que les choses se sont passées, du tout. Simplement, quand les usines ont fermé, et qui a plus d'emploi, les jeunes qui ont été formés là, ils sont partis chercher du travail ailleurs. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est cette idée de dire que l'État n'a rien fait pour eux. Non, moi je ne le pense pas. Quand on fait des voies ferrées, on fait des voies ferrées pour qu'il y ait des gens dedans, les trains, et que ça circule pas vide. Bon, donc on ne peut pas exiger de l'État qu'il impose à des gens d'aller s'installer à certains endroits, grâce à Dieu, parce que si on en était là, on serait dans un régime qui ne serait pas des plus agréables.
Alors prenons une autre région, les Hauts-de-France, avec notamment une ville que vous connaissez bien, je crois, Béatrice Gibelin. Calais, est-ce que là, le sentiment d'abandon par rapport à des questions qui sont des questions qui dépassent très largement le cadre de la commune, et lorsqu'on a vu par exemple la crise des migrants, avec donc une situation qui n'avait rien à voir en tant que tel avec la situation de Calais, est-ce que ces soucis à l'échelle communale ont été pris en charge par l'État ou pas ?
Tardivement. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi a-t-on laissé s'installer ce camp de migrants qui a presque atteint 10 000 personnes ? Le temps qu'il a fallu pour que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Cazeneuve, décide « maintenant c'est fini, on répartit ces populations ». Tout le monde a dit « mais ça ne va pas marcher, ce n'est pas possible, ils vont revenir ». Alors, il y a une partie des mineurs qui sont revenus, mais la très grande majorité des migrants n'est pas revenue. Et ils ont été répartis dans différentes villes de France. Et c'est ça qu'il faut faire au plus tôt. C'est au lieu de laisser ces points de fixation, qui a eu des conséquences politiques majeures, et vous avez raison, Calais était une ville qui ne votait pas Front National jusqu'au début des années 2000. Marine Le Pen, au deuxième tour des présidentielles, fait 57% des voix, si je ne me trompe pas. C'est énorme. Donc, avec un discours que les gens ont parfaitement ressenti. Parce qu'avec une augmentation, c'est vrai, des vols, parce qu'une population nombreuse de migrants en grande difficulté, qui a besoin d'une chaise en plastique pour s'asseoir, et ben elle va aller la piquer dans le jardin ou à côté où elle va pouvoir le prendre. Donc sur une population qui est une population souvent assez pauvres, pour qui ça représente beaucoup d'efforts d'avoir cette maison, ce jardin, être envahi, comme ils l'ont dit, a été un sentiment d'insécurité. Et la responsabilité politique de l'État, elle est là. C'est d'avoir laissé ces images qui ont été diffusées très très largement sur toutes les médias français, qui ont donné l'idée qu'il y avait une véritable invasion de l'immigration en France. Ce qui n'est pas vrai. Mais tout le monde a vu ces images-là. Et donc, casser après ça le discours en disant « mais non, il n'y a pas d'invasion », ce qui est vrai, il n'y a pas d'invasion. On peut parfaitement gérer le nombre de gens qui arrivent. Seulement, ces images sur Calais ont eu un effet politique absolument catastrophique. Il ne faut pas laisser des camps comme ça s'installer dans la durée.
Et alors cette fois-ci à l'échelle européenne, puisqu'on voit que cette question, notamment la question migratoire, et la question donc liée à des notions qui étaient jadis reléguées au second plan, comme par exemple la question de l'identité, aujourd'hui elles sont très importantes. Alors on les a vues par exemple à la faveur des élections en Allemagne, avec deux enseignements, une montée très importante du vote écologiste et puis un score élevé mais moins important qu'attendu pour l'AFD, autrement dit pour l'extrême droite allemande. Qu'en tirez-vous comme enseignement, Béatrice Gibelin?
J'en tire que le pire n'est jamais sûr et que effectivement on a eu là, parce qu'à Munich ils font plus de 30% des voix, les Verts. Hein. C'est donc quand même extrêmement important. Or, c'est intéressant de regarder la Bavière, parce que c'est un land qui se porte bien sur le plan économique, qui est riche, dans lequel il y a très très peu de chômage, avec un niveau de formation qui est relativement important, et où du coup la sensibilité aux conditions de vie et à l'environnement a pu s'exprimer. Et ce que je trouve important, parce que ça a baissé, effectivement, la CSU a perdu presque 10 points, hein, c'était le parti, on va dire, de centre-droit très conservateur, et les sociaux-démocrates ont une chute aussi extrêmement importante, puisqu'eux, ils sont en dessous même de 10%, ils sont à 9,7, je crois. C'est-à-dire que des partis classiques, qui ont fait partie des grandes coalitions, hein, les grosses coalitions, comme on dit en Allemagne, aujourd'hui, ne semblent plus apporter de solution. Alors, quand on n'est pas en situation économique et sociale difficile, l'idée que les Verts peuvent peut-être apporter une solution, c'est-à-dire que l'écologie doit devenir un élément central dans la politique, et ils ont considérablement encore rajeuni leur leader, puisque c'est des gens qui ont une trentaine d'années, dont une jeune femme qui a mené la campagne, trouve un écho. On l'a vu avec Bruxelles, au municipal de Belgique, où là aussi les écologistes vont gagner un certain nombre de communes alors qu'ils n'en avaient qu'une. On l'a vu au Luxembourg où ils gagnent aussi, tout ça c'est dans ce même week-end d'élection, donc je pense que c'est un élément très important. Néanmoins, la présence des populismes est à prendre en compte, parce qu'elle traduit la difficulté à s'adapter à des sociétés qui ont effectivement beaucoup changé. Elles ont changé parce qu'elles sont devenues... pas véritablement multiculturelles, j'irai pas jusque là, mais en tout cas elles sont confrontées à des cultures à laquelle elles n'étaient pas habituées, en particulier sur tous les pays d'Europe de l'Est. Je dis toujours, on n'en sortait pas, mais on n'en rentrait pas non plus. Donc ils étaient restés dans leur, j'allais dire, dans leur homogénéité sociale et culturelle, et ils ont pu être un peu déstabilisés par cela. Et que cette arrivée d'une immigration qui a été importante dans un laps de temps court, dans les années 2015 et 2016, qui ne l'est plus aujourd'hui et dont on a effectivement la capacité à intégrer ces populations, sur lesquelles il faut ajouter une inquiétude profonde qui est bien évidemment une immigration musulmane dont on craint un projet politique, géopolitique, d'imposer un mode de vie musulman.
Il y a un livre qui... Là, c'est très fantasmatique.
Mais c'est très fantasmatique, mais vous voyez, il y a un livre qui sort demain des deux journalistes du Monde qui s'appelle Inch'Allah, après une enquête en Seine-Saint-Denis, où il montre que dans certains quartiers...
Fabrice Lhomme et Gérard Davé.
Pour ne pas les nommer. Où il montre que dans certains quartiers, la pression de quelques-uns sociales oblige à un comportement à l'habitude. Oblige à faire Ramadan, par exemple, hein, y compris sur des gens jeunes, oblige à porter le foulard, voilà, des choses comme ça. Et c'est un livre sûrement très utile, je ne l'ai pas encore lu puisqu'il sort demain, et ils sont sans doute très, très prudents. Mais il est évident que ceci va alimenter, je dis pas qu'il ne faille pas en parler, mais ceci va alimenter l'idée qu'effectivement, on est menacé, qu'on n'est plus chez nous, qu'on sera plus chez nous. Donc il y a un travail, j'allais dire, pédagogique, d'explication à faire et refaire. Et je dis aux intellectuels, attention aux représentations que vous mettez en pâture.
Mais alors, n'y a-t-il pas un paradoxe là, parce que votre discipline, la géographie, géographie au sens large, est aux prises avec toute une série de controverses actuellement. On accuse certains géographes, certains démographes, certains journalistes maniant la démographie de faire le jeu du Front National ou du Rassemblement National. Maintenant, il y a donc Christophe Guilluy dont on a parlé pour la France périphérique. Il y a Stephen Smith qui est un journaliste spécialiste de l'Afrique,
la ruée vers
lequel a fait des projections démographiques que François Héran sur cette antenne a remis en cause. On avait reçu Stephen Smith quelques mois auparavant. Alors pour vous, est-ce que ces travaux de géographes, de démographes sont des travaux fondés? L'idée qui consiste à dire voilà, la pression démographique en Afrique n'est plus tenable et ce continent jeune avec une perspective de croissance économique moindre que sa croissance démographique va être obligé d'utiliser l'Europe comme soupape de sûreté. Donc il va y avoir une émigration africaine importante. Guilluy qui explique qu'il y a un certain nombre de zones du territoire qui sont utilisées comme des zones de relégation. Est-ce que c'est très différent de ce que vous décrivez là?
Je pense que c'est différent dans la mesure, un, où je ne dis pas que l'État est responsable de ces zones de relégation. La société française et le système économique dans lequel elle est, alors on peut vouloir en changer de système économique, mais bon, c'est pas dans mon pouvoir, et n'est pas, je veux dire, consciente volontairement de créer ces situations-là. Je pense qu'il est important de montrer aussi tout ce qui est fait pour tenir ces zones et ces régions, comment des gens s'investissent. Je pense aux enseignants, par exemple, dans ces différents lycées qui font un travail extrêmement important. Je crois que c'est pas forcément toujours le mieux de dire aux gens « Oh là là, vous allez mal, oh là là, ça va mal chez vous, mon Dieu, comme c'est difficile ». Je ne crois pas que ce soit non plus dire la méthode Coué et tout va très bien, Madame la Marquise. C'est d'essayer de faire un diagnostic qui soit pâle en porte-pièce et qui soit le plus juste possible. Parce que, bon, on est peut-être plus d'hôpital là, où on a peut-être plus tel service là, mais à 10 km, à 15 km, on va avoir le service qu'il faut et que on peut sans doute y avoir accès assez facilement. Il faut plutôt trouver des solutions que de dire simplement « Ah là là, là, ça ne va pas du tout ». Parce que je pense qu'on alimente une représentation extrêmement négative, un peu désespérante, de situations dont je reconnais la difficulté, mais qui ne sont dont on ne peut pas dire que dans le cadre de l'État français, ce soit des gens qui soient totalement abandonnés.
Et alors une autre manifestation de la colère des peuples, cette fois-ci en Angleterre avec le Brexit, comment la jugez-vous? Puisque là aussi, et a priori, il y a eu une décision surprenante, on marque avec le Brexit le début de la prise de conscience que quelque chose était en train de céder en Europe, Béatrice Gibelin.
D'abord vous dites les peuples, c'est une partie du peuple britannique. Donc, voyez, là encore, essayons d'être un peu précis, parce que le fait de mettre tout ça dans un même ensemble, les Britanniques veulent sortir de l'UE. Non, il y a eu une majorité, pas si énorme que ça, et peut-être le serait-elle encore aujourd'hui, qui a cru à un certain nombre de discours qui lui ont été tenus, comme quoi les lendemains chanteraient si on sortait de l'UE. Je pense qu'il faut être précis dans la façon dont on dit les choses. Vous savez très bien que le Royaume-Uni, depuis qu'il est rentré, qu'il a rejoint l'UE, on a des médias qui tiennent un discours anti-Union européenne depuis toujours, constamment. Bon, donc c'est considérablement alimenté ça, et je crois que une fois encore, c'est là où je suis, où la colère de ceux qui ont voté pour le Brexit va être encore plus grande, parce qu'ils vont être les premières victimes de la sortie du Brexit. Parce que c'est pas ceux avec de l'argent qui vont souffrir de ça. Ils vont s'adapter très très bien, ils vont profiter d'un certain nombre de possibilités sans les contraintes de l'Union européenne. Mais qui va supporter les conséquences de ça? Les Anglais, les Britanniques, les moins armés pour le faire. Je pense aux agriculteurs qui ont voté pour le Brexit et qui réalisent aujourd'hui que, ils vont plus avoir les aides de la PAC. ah, ils vont plus avoir la main-d'œuvre qui arrive de l'Europe de l'Est pour ramasser les fraises ou cueillir les cerises. Ils s'en sont rendus compte cet été, ou déjà, même s'ils pouvaient encore être là, ils étaient beaucoup moins nombreux. Donc, on s'est raconté des choses avec la souveraineté, ils vont en subir les conséquences.
Mais d'un autre côté, l'autre discours qui consistait à dire que le Brexit conduirait à une catastrophe rapide. Pour l'instant, la catastrophe n'a pas eu lieu. Alors peut-être aura-t-elle lieu, mais en tout cas,
soyons honnêtes. Pour l'instant, rien n'a changé, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Et sans que rien n'ait changé, parce qu'ils sont encore présents, ils siègent dans les différents conseils. On pense quand même qu'il y a un point de PIB qui est quand même sérieusement à la baisse, qu'un certain nombre d'investissements étrangers ne se font plus pour le moment, parce que on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer. On voit qu'on a un certain nombre d'Anglais qui se précipitent pour demander la nationalité française, c'est effectivement anecdotique, mais c'est quand même révélateur d'un certain nombre de choses. Wait and see, comme ils disent.
La situation en Italie, elle aussi, alors elle donne lieu à un certain nombre d'analyses sur la colère des individus et des mouvements populistes considérés, c'était Peter Sloterdijk qui évoquait ces mouvements populistes comme des banques de colère avec une possibilité pour les peuples de dépenser dans telle ou telle direction. La politique suivie par Salvini, une politique très hostile aux migrants avec des lois qui peuvent être considérées comme symboliques, même si elles ont des conséquences bien réelles, notamment, je lisais hier, une loi qui consistait à vouloir fermer les épiceries tenues par des étrangers avant 21h, ce qui est quand même une loi qui peut rappeler un certain nombre de choses désagréables. Voilà, et quand on voit cela, vous qui êtes géographe, habitué, Béatrice Gibelin, à analyser les mouvements politiques, comment vous envisagez l'avenir de l'Italie ?
Écoutez, l'Italie, il y a eu, je crois, une responsabilité forte des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a laissé, c'est vrai, l'Italie confrontée à une arrivée par centaines de milliers de gens, de migrants. Et qu'il n'y a pas eu la solidarité qu'il fallait avoir à ce moment-là. C'était un moment symbolique, fort, pour lequel il aurait fallu dire « Ok, on va avec vous, on assume avec vous, on fait partie du même bateau, on assume ça ». On l'a pas fait, et c'est quand même là-dessus que Salvini a surfé avec une certaine maestria, bien évidemment. Même si une grande partie de l'économie italienne doit beaucoup à la présence de ces immigrants plus ou moins clandestins, et parfois plus clandestins que moi. Mais qu'importe, c'était une société qui s'est sentie agressée et menacée. Avec quand même aussi, dans le cadre de l'Italie, une classe politique qui a joué avec le feu. Enfin, oui, ça fait quand même 20 ans, 25 ans qu'on a une classe politique en Italie avec Berlusconi, puis il y a eu à avoir un gouvernement de techniciens avec Leonetti qui était tout à fait sérieux, puis après on a eu Renzi qui a un peu joué avec le feu avec son référendum lui aussi. Les Italiens en sont fatigués. En sont très fatigués. Non pas que leur économie marche mal, peut-être que leur balance commerciale n'est pas si mauvaise que la nôtre, mais ils voudraient, j'allais dire, repartir sur des choses qui soient un peu solides, un peu saines. C'est ce qui explique qu'ils fassent ce projet de budget. Qui semble un peu inquiétant parce qu'ils ont une dette très très importante. Pas tellement les 2,4 de déficit qu'ils auraient, mais ils ont une dette très importante. Et si effectivement les taux d'emprunt montent, comment vont-ils faire pour rembourser ? Mais l'Italie, c'est pas la Grèce. C'est-à-dire que l'Italie, c'est un très gros morceau dans l'histoire de l'UE. S'il y a vraiment des grosses difficultés avec l'Italie, il est possible que ça tangue très 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 fort. Donc cette colère des peuples, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que les peuples, dans le cas de l'Italie, ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Les Italiens ne disent pas qu'ils veulent sortir. Même pas les Hongrois ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Les Polonais ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Le phénomène des Anglais est très particulier. Et il y a quelque chose qui est à noter, c'est que les 27, face au Brexit, pour le moment, ne se divisent pas. Alors que Theresa May, les Anglais avaient pensé que bon, ils vont bien se fragiliser, on va pouvoir jouer des uns et des autres. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, il y reste, je crois, une volonté de continuer à faire avancer cet objet géopolitique inédit qu'est l'Union européenne, assurément. Le problème, c'est la solidarité des uns avec les autres, on n'y est pas encore.
En guise de conclusion, Béatrice Gibelin, on évoque un certain nombre de thèmes en votre compagnie, vous qui êtes géographe et dirigez la revue Hérodote. On a parlé des inondations qui ont malheureusement frappé le département de l'Aude. On vient de parler du Brexit, de la situation en Italie avec une crise migratoire qui a laissé l'Italie seule face à cette question. C'est une sorte de retour de la géographie par rapport à une époque où on a pu croire que les sols, l'aménagement du territoire, tout ça, c'était une époque matérielle qui était derrière nous.
Ben on avait tort de penser ça, parce que la géographie n'a jamais disparu, on en a toujours besoin, et je pense qu'on en a encore plus besoin aujourd'hui, parce que c'est quand même le savoir qui sait combiner à la fois des éléments qui relèvent, on va dire, de la géographie humaine et des éléments qui relèvent de la nature, des sciences de la nature, et que l'un ne marche pas sans l'autre. Non seulement ça, mais elle est capable de raisonner à différents niveaux d'analyse, c'est-à-dire d'une petite ville des Arts avec les conséquences que ça peut avoir de façon beaucoup plus large sur la région des Hauts-de-France ou du Grand Est ou encore l'ensemble du territoire national.